9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et quel plaisir de vous dire à votre santé, ravi de vous retrouver le mercredi. Nous sommes avec Karima Chadibaou qui est avec nous. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bon matin à tous nos auditeurs.
Ah, c'est
et
vrai qu'il faut qu'on vous dise bon matin.
Ah oui, moi j'aime bien le bon matin.
Bon matin.
Voilà, j'aime bien. Ça me met de bonne énergie.
On vous dit bon midi, bon après-midi.
Non, bon après-midi ou belle journée, bel après-midi.
Voilà. Et le soir, on vous dit bonsoir.
Voilà.
Tout ça se décline finalement. C'est
bah
simple.
Oui.
Vous êtes psychothérapeute et fondatrice de l'école de naturopathie Lénat. Alors, nous avons invité Zohra Megraoui aujourd'hui. Bonjour Zohra.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes spécialiste de l'autisme et vous avez décidé il y a quelques années de vulgariser la compréhension et la gestion des troubles du comportement des enfants autistiques. Pourquoi cet engagement vis-à-vis de l'autisme ?
Parce que moi, étant jeune, j'ai été pas mal confrontée à tout ce qui est différence. Et du coup, je vais rapidement penser à travailler autour d'accompagnement. Après, c'était pas forcément sur l'autisme, mais il y a 12 ans, je suis tombée sur une association où je me suis formée et on formait des enfants avec des méthodes comportementales. Et je me suis dit que j'étais à ma place et que je pouvais enfin aider. Et donc du coup, ça a bifurqué sur l'autisme.
D'accord. Et comment s'appelle cette école, quoi, on peut les citer ?
C'est une association, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est à 12 ans. Donc, il y en a plein aujourd'hui d'associations qui forment aux méthodes comportementales.
Alors, vous arrivez avec une idée originale aujourd'hui, puisque vous publiez une BD. Ça s'appelle « Dans les yeux d'Emma et Teddy », aborder l'autisme de façon ludique et pédagogique chez Tom Pouce. Alors, c'est le premier tome de votre saga et des aventures d'Emma et Teddy. Et Tom Pouce est vraiment ce qu'on appelle un éditeur militant, hein, puisqu'il tourne vraiment autour de cette thématique de la différence des enfants.
Oui, tout à fait, de l'autisme, de la dyslexie, des atypiques, des hypersensibles, etc. Il y a énormément de thématiques qui sont développées avec Alain Royer. Et j'ai eu la chance d'être édité par Alain Royer parce que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que ma BD ne rentre pas forcément dans les lignes éditoriales.
Des maisons dites classiques,
Des codes classiques elle a été pas mal réfutée. Et du coup, quand j'ai rencontré Alain, ça lui a beaucoup plu. Et donc, du coup, on a commencé l'aventure.
En tout cas, c'est une super idée de présenter l'autisme à travers le support d'une BD. Et vous expliquez qu'en France, sur ce sujet, on manque de support pédagogique.
Tout à fait. On n'a pas assez d'outils de sensibilisation. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis mise à écrire cette BD. Parce que je l'ai faite surtout par rapport à ma pratique. Parce que j'accompagne des enfants soit à domicile ou soit dans ma salle de travail. Et j'ai voulu mettre en dessin ce que je faisais, en fait. Et du coup, je me suis dit que ça va être beaucoup plus concret pour des familles qui ne connaissent pas ou des familles qui viennent de découvrir le diagnostic. Ça peut être un aide, un petit mode d'emploi. Parce que souvent, en France, on annonce aux parents le diagnostic, mais on ne leur donne pas de mode d'emploi. Donc, ils sont un petit peu perdus et complètement largués. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de ce style-là avec des images, sachant que les autistes sont très visuels. Donc, du coup, cette BD, elle est aussi accessible à un grand public.
Et vous avez plein d'outils, en fait. On parlera des outils que vous utilisez avec les enfants autistes. Alors, on parle de l'autisme, mais ça serait peut-être plus juste de dire les autismes.
Tout à fait. En fait, le spectre est tellement large qu'on devrait utiliser une façon de travailler avec un autiste avec le nombre d'autistes qui existent. Donc c'est très complexe et du coup c'est pour ça qu'il faut connaître la base et ne pas se je sais pas si je vais
On a le temps, de toute façon, Zohra. Donc, vous pouvez bien nous expliquer.
Oui, en fait, ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on présente souvent l'autisme en description, donc en disant que il y a un retard de langage ou bien absence de langage, qu'il y a des intérêts particuliers, des stéréotypies, etc. Mais on n'explique pas la base du problème.
Stéréotypie, s'il vous plaît, Zohra.
La stéréotypie, c'est des autostimulations. Par exemple, vous voyez, moi, je vous parle, je commence un petit peu à bouger comme ça. Donc, un enfant autiste, il va peut-être le faire un peu plus fortement parce qu'il a un dérèglement au niveau du système vestibulaire, donc il a besoin de faire ça pour
se balance.
Peut être aussi on parle de flapping, etc., de mettre les mains devant les yeux, de regarder comme ça, de se balancer, d'avant en arrière. En fait, ça dépend, ça peut être des stéréotypies aussi qui sont non visibles. Ça peut être, par exemple, j'avais un exemple d'une conférence de Stéphanie Bonobrier qui expliquait que elle bougeait ses orteils en fait à l'intérieur et ça la gênait en fait par rapport à sa chaussure. Donc ça fait partie des stéréotypies, mais qui sont invisibles. En fait.
C'est là, on les voit pas.
On les voit pas forcément.
Mais elle le sait.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau des stéréotypies. Ce qui est malheureux, on va dire, c'est que pour les autistes, pour les personnes comme lambda, comme moi, qui sont non autistes, ça va être socialement acceptable, mais pour un autiste, ça sera pas acceptable. Donc il y a cette différence-là qu'il faut noter.
Et vous dites bien, et vous utilisez bien non autiste.
Oui, je dis non autiste parce que j'aime pas trop le mot neurotypique, mais après chacun fait comme. Il y a des termes moi qui me.
Ça devient compliqué aujourd'hui.
Des termes qui me gênent quand on parle de normes, de normalité, exact. C'est des choses qui me parce qu'on est tous différents, on est riches de nos différences, donc c'est pour ça que je dis non autiste pour distinguer.
Absolument. Moi, c'est un monde qui me fascine. Hein. Parce que en préparant l'émission, je vous l'avais dit, Philippe, j'avais un petit peu peur pour être complètement authentique.
Voilà, il faut être honnête. Hein. C'est voilà. Un thème sur le. On tourne autour du thème depuis un moment avec Sarima.
Oui.
Et vous avez reconnu. Vous dites, moi, voilà, je vous ferai pas une conférence sur l'autisme
non,
aujourd'hui.
Non, du tout, parce que je maîtrise pas du tout. Je l'ai étudié dans mes études. On voit un petit peu
aussi,
les troubles et tout ça, mais bon. On n'est pas des spécialistes et c'est tellement pointu, puis tellement par rapport à la recherche aussi, tellement de choses, ça évolue aussi. On a appris tellement de choses sur sur le cerveau avec les neurosciences. Donc du coup, je me disais oh là là, moi j'y connais pas grand chose, même si j'ai accueilli dans les centres sociaux. Donc parce que dans certains centres, j'anime le lieu d'accueil par enfant, les LAP, donc où les parents viennent avec leurs enfants, ils viennent jouer, s'amuser, c'est un temps vraiment maman-enfant ou papa-enfant, et où j'ai eu des enfants autistes. Et du coup, j'étais obligée de replonger dans mes bouquins et de revoir un petit peu comment m'adapter. Une petite fille notamment adorable, une petite fille de 4 ans, de 4 ans, et avec laquelle j'ai appris énormément de choses.
C'était
d'une puissance extraordinaire. Et en préparant l'émission pour être complètement authentique, quand on a parlé avec Philippe, l'après-midi même, je reçois dans l'atelier des parents, les papas solo, c'était maman solo, papa solo. Il y avait un papa qui est venu avec son enfant autiste de 11 ans. Et donc je le savais pas, moi je l'ai reconnu justement en stéréotypie, aux gestes qu'il faisait, aux cris qui sortaient de sa bouche, à un moment donné, qui aime beaucoup les chats, et donc du coup on a connecté tous les deux avec les chats, en parlant des chats, et je lui ai montré les chats, je lui ai parlé de mon chat, que je n'ai plus d'ailleurs, donc voilà, et pour vous dire, voilà, pour être complètement honnête, donc moi je suis admirative de voir déjà cette BD qui est extraordinaire, et comment vous travaillez, je suis curieuse de savoir vraiment ce que vous avez mis en place pour justement accompagner ces enfants et ces familles, ces parents aussi.
Alors déjà sur la définition, est-ce que déjà on peut dire ce qu'est l'autisme et qu'est-ce que ça n'est pas ? Parce qu'il y a, pour ce qui concerne l'autisme, il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de lieux communs, donc finalement on finit par plus trop savoir ce que c'est précisément.
Oui. Alors ce que ce n'est pas, et ce que je voudrais dire qu'on écrive en capital, ce n'est pas une maladie. Déjà, donc les gens pensent que c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est une autre façon de traiter l'information. Et c'est ça l'élément le plus important. Après,
c'est-à-dire quand vous dites une autre façon de traiter l'information,
je vais vous expliquer par le biais d'image. Alors par exemple, une personne autiste traite une information à la fois. C'est comme si par exemple on prend un rétroprojecteur et donc on doit mettre une diapositive. On met une diapositive et on doit mettre une autre après. Il ne peut pas traiter plusieurs informations.
On ne peut pas les enchaîner.
Donc il faut passer une par une. C'est comme pour son fonctionnement autistique, on va dire. Il fonctionne en boîte manuelle. Donc il doit passer une vitesse pour arriver à deuxième vitesse, troisième vitesse. Alors que nous, on fait les choses de façon en pilote automatique. On n'a pas besoin de réfléchir. Par exemple, si on va aller. Je vous donne un exemple concret. J'avais rendez-vous avec une personne autiste il y a quelques temps. Et on avait rendez-vous dans un café. Donc elle devait anticiper dans sa tête, à savoir comment elle allait demander le café, ce qu'elle allait répondre, comment le verre allait être posé, est-ce que toutes ces questions-là, en fait, ça faisait partie de son du cheminement. Et donc du coup, c'est ce qui fait que ils sont obligés de passer d'une étape après l'autre. Ils peuvent pas traiter plusieurs étapes en même temps.
Donc elle connaît la séquence. Alors donc
elle la connaît, elle l'anticipe.
Elle connaît déjà la séquence.
Tout à fait, c'est ça, en termes de séquençage, tout à fait.
Voilà, et ensuite, elle se prépare à ce qui va se passer.
C'est une vraie préparation.
C'est vraiment un entraînement.
C'est pour ça qu'on parle d'anticipation. Et c'est pour ça qu'on peut, par exemple, quand on prépare des enfants pour aller, pour les accompagner quelque part, on leur prépare des scénarios sociaux pour leur expliquer ou des images, pour leur dire voilà, ben, on va faire ça, ensuite on va partir à tel endroit, etc. Et c'est pour ça que parfois, quand on fait pas forcément le même chemin, ça peut déclencher une crise.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des petits exemples comme ça que je vous donne. J'ai voulu vous donner ces images-là pour que vous compreniez bien, en fait,
Comme on a du temps, on va expliquer. Et alors ça, moi, je l'ai découvert dans la BD, parce que vous dites qu'effectivement, vous faites des scénarios avec des images.
Oui.
Et on peut préparer un enfant donc autiste à aller chez le dentiste, chez le coiffeur, tout ce qui est sort de l'habituel.
Tout à fait.
On l'anticipe.
On l'anticipe et on peut préparer. En fait, moi, ce que je crie haut et fort aussi dans ma BD, c'est que tout est à apprendre. C'est-à-dire que mettre une chaussette, je le donne dans l'exemple de la BD, pour une enfant, c'est un apprentissage. Et donc, du coup, c'est ce qui demande aussi beaucoup d'énergie et qui demande beaucoup de travail et beaucoup de choses à refaire et refaire et refaire. En fait, on est tout le temps en train de refaire. Et donc, du coup, nous, en tant que professionnels, on a une certaine remise en question à faire parce que parfois, on fait mal. Et on ne le sait pas tout le temps, on le sait parfois après. Et du coup, il y a tout ce travail, en fait, de collaboration avec l'enfant pour pouvoir le mener à bien, pour pouvoir faire cette tâche et ensuite pouvoir faire une autre tâche. Donc, par exemple, le brossage de dents, aller aux toilettes, tout ça, c'est séquencé.
Et je voulais vous demander, Zora, quand il y a, par exemple, vous avez dit, vous anticipez tout. Et quand il y a, par exemple, quelque chose, ils sont à l'extérieur, par exemple, une sortie avec sa classe, s'il est en classe, hein, s'il est en inclusion.
Oui, bah justement, on va parler aussi de l'inclusion et de la scolarisation.
Comment ça se passe? Vous anticipez aussi l'imprévu?
C'est un peu difficile d'anticiper l'imprévu, mais en tout cas, on lui explique où on va aller, ce qu'on va faire, et on le prépare quand même suffisamment avant. Il y a vraiment une préparation suffisamment avant pour savoir exactement où il va aller, ce qu'on va faire. En général, il est accompagné de son AESH, donc elle le prépare déjà, la maîtresse aussi, etc. Donc il y a ce côté-là.
Ou AVS, c'est la même chose.
C'est la nouvelle appellation AESH.
C'était plus facile à retenir, ça m'arrangeait en plus, tous ces sigles.
Ouais, il y a des choses plus importantes à travailler que les sigles, mais bon, ça c'est mon avis personnel.
Les sigles qu'on utilise dans les administrations ont c'est une importance, voilà.
Oui, c'est une importance, c'est vrai.
Bon, ou vous les maîtrisez ou pas,
et
souvent ça fait pas,
c'est vrai,
vous savez que vous faites partie du truc si vous maîtrisez les sigles. Par exemple, un enfant autiste qui doit prendre les transports en commun, là aussi, c'est quelque chose que vous anticipez.
C'est quelque chose qu'il faut préparer, surtout que il faut savoir si l'enfant il a un système de communication. Est-ce qu'il communique avec le système du classeur, du PECS, avec les images, et ensuite on lui explique. Est-ce qu'il communique uniquement avec des mots? Tout dépend, en fait. Tout dépend comment il communique.
Mais moi, je ne connaissais pas l'outil du système du classeur. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cet outil.
Alors, le système du classeur, en fait, il consiste... D'abord, on a une première phase qui consiste à donner l'image... il y a un intervenant en face, et l'enfant... On est face à face. Donc, on donne une image, par exemple, je ne sais pas, moi, on travaille avec... il doit jouer avec le ballon de motricité. Donc, il a le ballon de motricité. Donc, pour qu'il nous explique, pour jouer avec le ballon de motricité, il nous donne l'image. Et dès qu'il nous donne l'image, on verbalise l'image. Parce que certains enfants ne parlent pas, donc c'est important de verbaliser. Donc on dit ballon, et ensuite, comme il le donne, donc on le félicite, et il peut jouer au ballon. Et après, ainsi de suite. Donc
c'est un système de récompense.
C'est un système de récompense. Et ensuite, les phases deviennent un peu plus complexes. Donc ensuite, on va essayer de lui faire la bande phrase avec « je veux », donc avec le pictogramme « je veux », « ballon, s'il te plaît, Zora », ou « je veux, voiture, s'il te plaît, Zora ». Comme ça, il apprend aussi à pointer, parce qu'il y a le pointage aussi à apprendre aux enfants autistes. Certains ne savent pas le faire. Donc il y a beaucoup d'éléments à
pointage, c'est-à-dire désigner ce dont on
le
parle.
Le pointage, parce que le pointage de désigner l'image. Après, ça peut être du pointage pour quand il y a un objet dans la salle, pour le pointer, pour le demander. Mais le geste du pointage est à apprendre. Certains ne savent pas le faire. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout est à apprendre. Donc, il y a des enfants qui vont vous prendre par le bras comme ça pour vous tirer.
Oui.
Et donc, on va lui apprendre que socialement, ça ne se fait pas et qu'il faut lui apprendre au moins le geste du pointage pour qu'il puisse obtenir cet objet-là.
Et ça va dans un classeur, en fait.
Oui, c'est dans un classeur et ça peut se fabriquer aussi. On n'est pas obligatoirement obligé d'acheter le classeur PECS, parce que c'est PECS. PECS.
Expliquez, s'il vous plaît.
Picture Exchange, je ne me rappelle même plus du. C'est Picture Exchange.
En tout cas, c'est
communication.
Mais c'est une méthode qui existe.
C'est une méthode pour. C'est un système de communication, c'est pour rentrer en communication avec l'enfant.
Bien. Ouais. On parle de l'autisme autrement ce matin à travers les histoires de Emma. 6 ans et Teddy, 4 ans, ce sont les personnages de la BD que vient nous présenter notre invité ce matin. Ça s'appelle Dans les yeux d'Emma et Teddy et on parle donc de l'autisme jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et nous parlons de l'autisme autrement ce matin avec notre invitée qui s'appelle Zora Megraoui, qui est spécialiste de l'autisme et qui publie cette BD pédagogique qui s'appelle « Dans les yeux d'Emma et Teddy », aborder l'autisme de façon ludique et pédagogique. Et l'éditeur, c'est Tom Pousse. Et on va le voir avec vous ce matin, un enfant autiste apprend à apprendre. Ça, c'est la base, les apprentissages. Alors, on a commencé tout à l'heure à définir, Zora, ce qu'était l'autisme et ce que n'était pas l'autisme. Alors avant, on disait à quelqu'un qui était très souvent isolé dans son monde, on lui disait « arrête de faire ton autiste ». Donc ça, ça a été longtemps, pendant des années, le lieu commun de l'autisme.
Ouais, ça, c'est à bannir. À bannir totalement, ne pas le dire, ça met... en colère la communauté des personnes autistes, quoi. C'est quelque chose vraiment à ne pas dire, en fait.
Quelqu'un qui était renfermé, souvent.
On le dit souvent.
Ouais, il est un peu autiste. Ouais. Alors, dans ce que n'est pas l'autisme, qu'est-ce que ça n'est pas d'autre, Zora?
Qu'est-ce que ça n'est pas d'autre? Donc, je vous ai dit, ce n'était pas une maladie.
Ce n'était pas une maladie. Hein.
Voilà, je pense que c'est l'essentiel à savoir, c'est que ce n'est pas une maladie, en fait, et, et que chaque cas est différent. Donc, et l'essentiel à comprendre, en fait, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la base vraiment de l'autisme, c'est qu'il faut découvrir le fonctionnement autistique de l'enfant et son fonctionnement sensoriel. Donc, c'est la sensorialité qui est à prendre en compte en premier pour comprendre pourquoi il y a tel comportement qui apparaît. Et pas le contraire. On ne dit pas il est autiste parce qu'il a des troubles du comportement. Non, en fait, pourquoi il a un trouble du comportement, et on essaie de comprendre et on essaie de voir au niveau de la sensorialité. C'est-à-dire que, pour parler de sensorialité, donc ça touche tous les cinq, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et donc, il y a certains de ces sens qui sont soit sous-stimulés ou soit sur-stimulés. Donc on parle de hyper-sensorialité ou de hypo-sensorialité pour certains. Et chez un enfant, il peut être hypo et hyper. Par exemple, il peut être hypotone, par exemple au niveau du poignet, mais par contre, il peut être hyper au niveau de l'audition, entendre des bruits que vous ne pouvez même pas percevoir. Donc il y a ça à comprendre dans l'autisme.
Ce qui peut expliquer pour mieux les accompagner au quotidien. Est agressé par des sons.
Exemple, moi j'avais travaillé là sur un spot, donc j'espère qu'il sera bientôt diffusé, enfin bientôt produit. C'est pour plus tard. Enfin bref, ça c'est en aparté. Décris en fait un enfant qui prend le métro avec sa maman, donc il descend les escaliers, donc il y a des bruits, il y avait les bruits par exemple de chaussures qui vont le gêner, il y a l'odeur de cigarette qui peut le gêner quand quelqu'un jette son mégot, ça va le gêner, ça va commencer, tout ça, ça va augmenter sa jauge de sensibilité et de parasitage. Donc après il va aller demander le ticket, il va oblitérer le ticket. Ensuite, il arrive devant le quai, il y a des gens qui peuvent manger, par exemple,
un grec
avec des frites.
L'odeur va le dégoûter, ou bien il va passer, puis il y a l'odeur de parfum d'une femme ou d'un homme qui va le déranger. Ensuite, il y a les portes qui vont s'ouvrir, ou le métro qui va arriver, les roues qui vont grincer. Donc ça, c'est des choses, nous, on n'y pense pas forcément, parce qu'on a notre quotidien, donc ou bien on est avec notre musique, on ne fait pas attention. Lui, déjà, ça va absorber une certaine énergie, il va rentrer, etc. Et donc, du coup, j'explique qu'en permanence, ces enfants sont parasités par ces choses-là que nous ne voyons pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de handicap invisible, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que parfois on dit « Ah, pourquoi t'es fatigué ?» C'est parce que tout ça, en fait, toute cette accumulation. Donc imaginez...
Il a les sens toujours stimulés
très régulièrement. Et donc du coup, parfois, un sens va éteindre les autres sens. Par exemple, c'est pour ça que parfois, quand les gens pensent que quand on appelle l'enfant, on croit qu'il n'entend pas, mais c'est pas qu'il n'entend pas, c'est qu'il y a un autre sens qui est surstimulé. Et du coup, ce qui fait qu'il n'entend pas forcément, mais en mode veille, c'est ça qu'on dit, en mode veille. Et je voulais revenir sur quelque chose, faire le lien, pour que vous compreniez bien l'impact que ça a au niveau de l'école, donc au niveau de la classe. Donc un enfant, d'ailleurs Béatrice Ducas en parle très bien dans ses vidéos YouTube, un enfant en classe, c'est à gérer, un enfant autiste, en tout cas en termes de bruit et tout ça, en termes de parasitage, c'est juste épuisant. Donc, par exemple, il y a les néons qui vont le gêner, il y a peut-être la voix de la maîtresse, il y a peut-être quelqu'un qui va ouvrir sa trousse, ça va le gêner. Ensuite, il va être chahuté dans la classe, dans la cour, ou bien tous ces exemples-là, tout ça font que l'enfant, à la fin de la journée, il est KO. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit pas, mais
c'est
que
toutes
lui,
ces choses
que lui vit.
Non, mais
tout à l'heure,
on
parle déclenche aussi des crises.
Non, mais ça, mais nous, on ressent pas. Donc effectivement, on a du mal à appréhender ce que ça peut susciter chez un enfant.
Voilà. Et donc tout à l'heure, vous me disiez qu'est-ce que n'est pas l'autisme. Bah c'est pas forcément parce que les gens ont dans la tête un autiste, c'est soit quelqu'un de super méga intelligent, ou bien quelqu'un qui va se taper la tête contre le mur. Oui. Donc c'est pas ça. C'est pas.
Et, bah, et ça, c'est ça, l'Asperger de la télévision.
On parle de syndrome.
Voyez.
Voilà, oui, de la télévision, des films, de ce qu'on a pu voir et.
Bah, il y a quand même des idées dedans, etc., à exploiter, etc., mais ce n'est pas que ça, en fait. Moi, j'ai travaillé avec des niveaux, mais complètement différents, donc du coup, c'est pas que ça, c'est pas des enfants. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais, il faut savoir pourquoi l'enfant, il faut connaître l'origine pour pouvoir comprendre pourquoi l'enfant se tape la tête. C'est peut-être parce qu'il a un trouble sensoriel, qu'il a vu quelqu'un, par exemple, passer. Par exemple, je vous donnais un exemple au concret. J'ai été formée à l'intégration sensorielle par Olivier Gorgi. J'ai fait le niveau 1, pas le niveau 2. Et il donnait un exemple. Non, mais je précise parce que.
C'est quoi l'intégration sensorielle?
Ben justement. Et donc, je vous dirai après. Ben justement, c'est ce dont on parle. Donc, c'est pour travailler, c'est pour essayer de comprendre toutes les difficultés sensorielles qu'a l'enfant, donc que ce soit la vue, l'odorat ou que ce soit l'équilibre, etc., pour essayer de l'accompagner au mieux, pour combler. Par exemple, s'il y a un grand problème de bruit, on peut lui proposer un casque, par exemple, ou bien on peut lui proposer des bouchons. Vous voyez, ou par exemple quelqu'un qui a des problèmes, qui la luminosité le gêne, on va lui proposer des lunettes un peu adaptées, qui vont un peu camoufler, etc., pour que ce soit plus faisable, plus, comment dire,
acceptable,
plus vivable pour lui au quotidien, en fait, pour que ça lui fasse perdre moins d'énergie.
Oui, plus confortable, quoi.
En tout cas. Donc je vais vous donner l'exemple d'Olivier Gorgi. Donc en fait, c'était un éducateur qui rentrait dans la salle et qui était avec un enfant et l'enfant. Il vient et d'habitude ne fait rien, d'habitude ne fait rien de spécial, pas trop du comportement. Il vient et il lui saute dessus, mais vraiment il lui saute dessus. Et en fait, on a appris après que c'est parce que son parfum était trop fort et que ça le gênait. Donc c'est un problème sensoriel. Il n'a pas fait un trouble du comportement parce qu'il était énervé ou parce qu'il voulait le taper. C'est parce qu'il avait un trouble sensoriel. Vous voyez la différence? C'est les petites subtilités qu'il faut connaître.
Ah, mais il faut avoir la grille de lecture pour pouvoir justement, j'imagine,
les professeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste pour parler de sensorialité. Absolument. Parce que c'est la base et que c'est aussi la base de mes futurs écrits et que je travaille dessus. Et pour faire comprendre l'autisme de l'intérieur.
Et j'ai une question à vous poser, Zora. Moi qui travaille en hypnose, avec beaucoup d'enfants aussi, quand ils sont atteints de troubles, donc d'hyperactivité ou de troubles de l'attention.
Ou de l'hyperactivité.
Voilà, ou de troubles de l'attention pour les aider justement à ralentir un petit peu le rythme, et du coup on travaille sur les représentations mentales.
Ouais.
Est-ce que c'est possible aussi avec les autistes de faire ça? C'est-à-dire, par exemple, si une personne, je veux dire, elle a au niveau de l'odorat, on prend l'exemple de petit garçon, l'odorat hyper développé et qui est envahi en fait par l'odeur et par tout ça, qui va déclencher automatiquement un comportement justement, donc il saute sur la personne.
Ouais.
Si en préparant, c'est-à-dire sans être dans cette situation-là, mais de la revoir dissociée, c'est-à-dire sans être dedans, de la voir de l'extérieur, est-ce qu'on peut agir dessus? C'est-à-dire de lui dire, à chaque fois que tu sentiras une odeur, tu as ton thermostat intérieur que tu vas pouvoir baisser, augmenter ou diminuer le volume pour le son, diminuer l'intensité. Est-ce que c'est parce que moi je travaille avec des enfants?
Alors
comme ça,
peut-être pour certains enfants, on va dire, de haut niveau ou qui ont cette capacité, cette possibilité de le faire, mais pour d'autres, je ne suis pas persuadée.
D'accord. Ok.
Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que pour d'autres,
c'est une forme de programmation.
C'est une forme de programmation, oui.
Peut-être que pour certains enfants, que cette capacité, parce que les enfants autistes ont cette difficulté-là de conceptualisation, donc c'est pour ça que je me dis que je suis pas sûre à 100%.
D'accord.
Il y a cette difficulté-là parce qu'en fait, les personnes autistes pensent différemment parce qu'elles perçoivent les choses différemment de nous. Donc du coup, il y a ce facteur-là à prendre en compte.
D'accord. Et puis il y a la difficulté peut-être aussi de nous décrire les choses qu'ils voient différemment, et donc avec le trouble du langage, la difficulté de l'exprimer.
Justement, donc il faut se placer par rapport à leur propre grille de lecture.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
je suis pas sûre. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que cette réponse, cette question-là, je sais pas si. Mais à creuser parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que si ça peut diminuer, c'est vraiment intéressant, je trouve.
Et ce qu'on voit avec vous ce matin, c'est que tout est encore à découvrir sur l'autisme.
Moi, j'apprends tous les jours. Ça fait 12 ans que je travaille. Ça fait 12 ans que j'adore mon métier et que j'apprends tous les jours. Que ce soit avec un adulte autiste, avec un enfant, je m'éclate.
Ça s'entend et ça se voit. Vous dégagez une passion, ça se voit.
Et plus de compréhension dans votre BD, d'ailleurs, qui s'appelle Dans les yeux d'Emma. Et Teddy, vos deux petits héros abordent l'autisme de façon ludique et pédagogique. L'éditeur, c'est Tom Pouce et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors c'est un livre comme on les aime beaucoup, Sakarima, c'est une BD, ça s'appelle Dans les yeux d'Emma et Teddy, aborder l'autisme de façon ludique et pédagogique chez Tom Pouce. Eh bien c'est Zora Megraoui qui est notre invitée ce matin, qui est spécialiste de l'autisme, qui l'a voulu cette BD, qui a été refusée par plein de maisons d'édition. Mais il faut dire que en plus vous avez pensé cette BD en intégrant les codes des autistes directement. C'est vrai pour le code couleur, par exemple, avec des couleurs, parce que le spectre de couleurs des enfants autistes n'est pas le même que les nôtres.
Alors, en fait, c'est pas forcément que c'est pas le même, c'est qu'il y a certaines couleurs qui peuvent agresser, en fait. Donc, on a évité tout ce qui est rouge vif, parce qu'on avait fait une BD sur le supermarché, et elle était un petit peu trop, les couleurs étaient un petit peu trop vives, donc on a fait intervenir une personne qui s'occupe des couleurs pour un peu atténuer tout ça. Donc, on a été sensible à ça pendant l'écriture, donc avec mon illustrateur. On a fait attention.
Alors le supermarché ou l'hypermarché ou la grande surface, c'est exactement le bon exemple d'ultrême agression pour un enfant
permanente. Il y a non seulement l'agression, il y a aussi la gestion de la frustration chez un enfant autiste qui a un apprentissage, parce qu'on va le répéter je pense plein de fois, tout est à apprendre. Donc on apprend à un enfant aussi à attendre. Donc pour vous dire que vraiment on balaye tout en fait. Donc il faut apprendre un enfant à apprendre à la base avant de pouvoir l'emmener au centre commercial. S'il n'est pas dans la capacité d'apprendre à attendre, il ne va pas pouvoir attendre dans une queue, c'est impossible. Il va faire une colère, etc. Donc il faut passer par ces étapes-là. Et après, dans le centre commercial, en fait, dans le magasin, donc quand il va rentrer, il va être submergé par énormément d'informations. Donc que ce soit la musique qui est trop forte, que ce soit pareil, des personnes qui passent à côté de lui, qui est le chahute, des bruits de talons, des personnes qui parlent au téléphone. En fait, si vous voulez, quand il peut entendre une personne au téléphone, pour une personne qui a une sensorialité auditive très importante, c'est comme si la voix de la personne était dans sa tête en écho, qui résonne dans sa tête.
En résonance.
En résonance. Et donc, du coup, ça explique pourquoi certains ont des difficultés et peuvent avoir des comportements, on va dire, inadaptés dans le centre commercial. Mais c'est pas parce qu'ils sont mal élevés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il est mal élevé celui-là, etc.
Ouais, c'est le jugement.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une BD dans laquelle je le dis. Voilà, le jugement. Et donc, du coup, il y a des parents qui, des fois, refusent d'aller dans le magasin avec leur enfant parce qu'ils ont peur de ça. Il y a aussi le regard des autres qui est...
Le fait de mauvais parents, vous savez pas.
Alors il y a ça. Non seulement il y a ça. Après il y a, mon idée est partie. Il y a aussi la misère sociale que peuvent vivre aussi les parents. C'est-à-dire que ils vont avoir un enfant autiste, il y a le diagnostic. La maman va devoir certainement arrêter de travailler parce qu'il y a des accompagnements à faire. Donc accompagnement psychomotricien, accompagnement intervenant, accompagnement psychologue, accompagnement orthophoniste. Il y a des accompagnements qui sont payants, d'autres qui sont remboursés. Il y a du matériel à acheter, matériel adapté. J'avais écrit un post hier dessus, il y a du matériel à acheter qui est très coûteux. On parlait de sensorialité, donc l'importance. Il y a des vêtements aussi, des vêtements que les enfants ne supportent pas. Donc c'est bien qu'on en parle parce que, par exemple, un enfant, il va peut-être être gêné par l'étiquette qu'il y a derrière. Nous, non. Il va être gêné par les coutures intérieur des pantalons, il va être gêné par les coutures à l'intérieur des chaussettes. Donc moi j'avais un enfant qui venait, et je ne comprenais pas, c'était il y a des années, il venait en séance et il enlevait systématiquement ses chaussettes. Et moi je ne comprenais pas, donc je lui remettais ses chaussettes, et je ne comprenais pas, et c'est après que j'ai compris qu'en fait il avait un problème sensoriel. Donc c'est pour ça que je vous dis, la base c'est la sensorialité. Et c'est ce qu'il faut, former les professionnels à ça, à la base de la sensorialité. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis un peu
on est au cœur.
Moi des fois je parle vite et je...
Non, et c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est ça qu'il faut expliquer. On est vraiment à l'intérieur de ce que c'est et de comment les enfants autistes et les autistes vivent.
Moi, je m'étais arrêtée, vraiment le côté sensoriel, pas du tout, mais je m'étais arrêtée sur la stéréotypie, donc les gestes, les mouvements.
Oui, ce que la plupart.
Le retard de langage ou pas de langage du tout et les difficultés à avoir du lien avec les autres. Je m'étais arrêtée là-dessus.
Au départ.
Exactement. Alors que du coup, là, avec la question de la sensorialité et vraiment de bien se la représenter, d'entrer dans le monde de l'enfant autiste ou de l'adulte autiste, c'est autre chose. Et du coup, on a les moyens de pouvoir agir. Et c'est ça qui est incroyable, il faut dire aux parents. C'est incroyable.
Alors, en parlant des parents, vous dites dans votre livre que les parents sont experts de leurs enfants. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de le rappeler, ça ?
Bah parce que j'ai, alors là c'est là vous touchez bien là, c'est le, parce que souvent quand ils ont leur diagnostic, ils sont amenés à rencontrer des professionnels. Donc je dis pas ça par comment dire, par prétention ou quoi que ce soit, mais c'est par des retours que j'ai eu des parents. Ça fait quand même 12 ans que je travaille avec eux. Ils ont rencontré des professionnels, des professeurs, des médecins, des pédopsies, etc., qui leur disent bah on pourra rien faire de votre enfant, ou votre enfant c'est un légume, laissez-le, enfin je veux dire il va aller dans un centre, etc. Et quand un parent, il entend ça et qu'il croit en son enfant et qu'il connaît mieux que personne son enfant. Nous, moi, en tant que maman, moi aussi, je connais très très bien mon enfant. Vous aussi, peut-être, vous avez des enfants, vous le connaissez parfaitement.